Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, sommaire de cette édition du jeudi 2 février 2023. Le pape exhorte les jeunes de la RDC à refuser tribalisme et corruption lors d'une messe au stade de Marti à Kinshasa.
Nous avons retenu que le pape voudrait que le cœur soit reposé pour qu'on ne s'enferme pas dans le mal, qu'on ne s'enferme pas dans la rancœur.
Nous reviendrons par ailleurs donc dans la partie magazine sur les appels au pardon et à la justice du souverain pontife avec l'abbé Jean Bosco Bahala, prêtre du diocèse de Bukavu dans l'est de la RDC. Le Burkina Faso propose de créer une fédération avec le Mali. Un bureau de la commission électorale et un poste de police ont été attaqués au Nigeria à moins d'un mois de la présidentielle. Le président Mahamat Debi Itno a inauguré une ambassade du Tchad en Israël. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, avec l'augmentation du prix des carburants au Cameroun et pour les sports, des nouvelles du championnat du monde des clubs au Maroc. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. À l'avant-dernier jour de sa visite en République démocratique du Congo, le pape a exhorté jeudi à Kinshasa des milliers de jeunes à se bâtir un nouvel avenir en rejetant le tribalisme et en s'opposant à la corruption. Rosine Monizero.
Devant plus de 65 000 personnes rassemblées au stade des martyrs, dont la capitale congolaise, le chef de l'église catholique a parlé de pardon et réconciliation dans un pays ensanglanté depuis des décennies par les conflits armés. Lors d'un discours souvent interrompu par des applaudissements, François a appelé à prendre garde à la tentation de désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre, au régionalisme et au tribalisme qui semblent vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Il a exhorté les jeunes à ne pas répéter les erreurs des générations passées, insistant notamment sur la corruption qui semble s'étendre et ne jamais s'arrêter. Le chef de l'Église catholique poursuit demain, vendredi, son voyage au Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde depuis 2013, c'est-à-dire 2 ans après son indépendance, une guerre civile qui a fait quelque 400 000 morts.
Au Cameroun, un ex-ministre de la Défense a été condamné hier à 30 ans de prison pour détournement de fonds par le tribunal criminel spécial à Yaoundé. Edgar Alain Mebengo a été reconnu coupable de détournement de 23 milliards de francs CFA à travers des surfacturations, a précisé son avocate Pauline Amougou-Koué, qui a fait savoir que son client a l'intention de se pourvoir en cassation. Son épouse a été également condamnée, elle, à 10 ans de prison pour complicité de détournement et plusieurs biens du couple ont été saisis, selon maître Pauline Amougou-Koué. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué hier matin un bureau de la commission électorale, un poste de police et un bâtiment attenant au commissariat dans le sud-est du pays, tuant un garçon et blessant une fille à 3 semaines des élections présidentielles et législatives. Nathalie Barge.
Selon la police de l'État d'Anambra, des hommes armés d'engins explosifs improvisés sont arrivés à bord de 4 voitures. Un garçon de 16 ans a été tué et une fille de 15 ans blessée par balle dans l'attaque. Le bâtiment de la commission électorale a été très endommagé, a indiqué la présidence de l'INEC, précisant que 729 urnes et 243 isoloirs ont été détruits. Des cartes d'électeurs placées dans une armoire ignifuge n'ont subi aucun dommage. L'INEC a mis en garde contre la menace d'une intensification des violences pendant la campagne électorale, affirmant avoir recensé une 50aine d'attaques depuis son lancement. Dans le sud-est du Nigeria, plusieurs attaques ont été attribuées au mouvement indépendantiste IPOB, qui a nié toute responsabilité dans ces violences. Selon les médias locaux, plus de 100 policiers et agents de sécurité ont été tués depuis le début de l'année dernière dans des attaques ciblées. Les Nigérians doivent désigner le 25 février le successeur du président Muhammadu Buhari qui arrive au terme de son second mandat. 18 candidats sont en lice, dont notamment Ahmed Bola Tinubu du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire, principal parti d'opposition, et Peter Obi du Parti travailliste.
Le premier ministre burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali. C'est ce qui ressort du compte-rendu d'une visite qu'il a effectuée mardi et mercredi à Bamako. Les deux pays sont confrontés à la violence djihadiste et dirigés par des militaires putschistes qui ont exigé le départ des soldats français de leur territoire. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous pouvons constituer une fédération souple qui peut aller en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux, a déclaré le premier ministre burkinabé Apollinaire Kyelem de Tambela, ajoutant « Nos devanciers ont tenté des regroupements, comme la Fédération du Mali qui malheureusement n'a pas duré. » Aucune réaction officielle n'a été rapportée du côté des autorités maliennes. Le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a encouragé son homologue burkinabé à suivre l'exemple malien.
Souveraineté, liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso doivent avoir des exigences similaires.
Bamako s'est détourné de Paris et s'est tourné vers Moscou. Ouagadougou a aussi demandé le départ des 400 soldats français de l'opération Sabre. Rappelons que la guerre de la bande d'Agaché, à l'extrême nord-ouest du Burkina, aussi appelée la guerre de Noël, avait opposé les deux pays du 14 au 30 décembre 1985.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a inauguré ce jeudi une ambassade à Ramat Gan, près de Tel Aviv en Israël, 4 ans après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Les détails avec Nani Talani.
L'ouverture de cette ambassade marque un tournant dans les relations entre le Tchad et Israël qui ont été interrompues pendant 47 ans. Réaction du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé mardi en Israël.
Si le Tchad et Israël se trouvent aujourd'hui dans un tournant décisif de leur coopération, c'est surtout grâce aux efforts fournis par le Tchad et à votre investissement personnel ayant permis de renouer les relations après 5 décennies.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a participé à l'inauguration de l'ambassade, a salué un moment historique. Nous renforçons notre amitié et nos intérêts communs en vue de la paix, de la sécurité et de la prospérité, a-t-il déclaré. Le Tchad, majoritairement musulman, avait déjà eu une ambassade en Israël. Les relations entre les deux pays ont été rompues parce que N'Djamena protestait contre l'occupation des territoires palestiniens sur fond des guerres israélo-arabes.
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, était à Khartoum ce jeudi pour discuter de la normalisation des relations entre les deux pays. Le voyage s'inscrit dans le cadre d'un échange de visites entre le Soudan et Israël et comprend des discussions sur la conclusion et la signature d'un accord de normalisation. Le Soudan a accepté de prendre des mesures pour normaliser ses liens avec Israël dans un accord de 2020 négocié par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Le nouvel expert de l'ONU pour les droits humains, Radouane Nouisset, a plaidé aujourd'hui à Khartoum pour la levée de l'immunité des responsables de violences au Soudan. Le diplomate tunisien a remplacé en décembre le Sénégalais Adama Dieng, démissionnaire après avoir plaidé lui aussi pour des procès et la fin de la répression qui a tué plus de 120 militants. Depuis samedi, M. Nouisset a rencontré des représentants civils et militaires, dont Abdel Fattah al-Burhan, devenu de facto le dirigeant du pays depuis son putsch, et son adjoint, le général Mohamed Amdam Daglo, alias Emeti, patron de la très redoutée force de soutien rapide. Le Zimbabwe a adopté une loi qui vise les critiques à museler la société civile en plaçant les ONG sous la menace de sanctions sévères et d'un contrôle strict du gouvernement à quelques mois des élections générales. Le Sénat a voté ce mercredi soir, ce texte déjà approuvé par l'Assemblée en décembre et que le président doit ratifier avant son entrée en vigueur. Ce vote intervient alors que groupe de défense des droits de l'homme et parti d'opposition dénoncent une répression accrue contre les voix dissidentes avant des élections dont la date n'est pas encore fixée. Hors du continent, le Parlement européen a levé jeudi l'immunité de 2 eurodéputés que la justice belge cherche à interroger dans le cadre de son enquête sur le vaste scandale de corruption qui secoue l'institution. Les élus, l'Italien Andrea Cosolino et le Belge Marc Tarabella, tous deux issus du groupe socialiste démocrate démentent toute malversation et se disent prêts à répondre aux questions des enquêteurs. Quatre personnes, dont une ancienne vice-présidente du Parlement, la grecque Eva Kelly, démise de ses fonctions depuis que le scandale, souvent baptisé Qatargate, l'ancien eurodéputé européen italien. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Au Cameroun, augmentation du prix des carburants depuis hier. Le litre du super est passé de 630 à 730 francs CFA, soit une hausse de près de 16%. Le litre de gasoil est passé de 575 à 720 francs CFA, soit une hausse de plus de 25%. Le litre de pétrole industriel enregistre une hausse de 36,5% à 590,19 francs CFA. Le prix du pétrole lampant est maintenu à 350 francs CFA ainsi que le gaz domestique à 3500 francs pour la bouteille de 6 kg et 6500 francs pour celle de 12 kg. Près de 50% des médicaments au Sahel sont de qualité inférieure à la norme ou falsifiés, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, citant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. L'agence onusienne indique que ces médicaments venant d'Europe, de Chine et d'Inde passent par les ports du Ghana, du Bénin et du Nigeria avant d'être acheminés au Sahel. En Égypte, le Premier ministre Mostafa Madbouly a annoncé que le gouvernement va bientôt dévoiler un plan d'introduction en bourse de 20 sociétés d'État visant à augmenter la part du secteur privé. Le pays veut porter la contribution du privé à 65% en 2025.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Mondial des clubs pour commencer, Al Ahly passe l'obstacle néo-zélandais.
Oui, les Égyptiens d'Al Ahly ont dominé hier mercredi à Tanger les néo-zélandais d'Auckland City 3-0 en match d'ouverture du Mondial des clubs et se sont qualifiés pour le tour suivant. Nous retrouvons à Casablanca notre correspondant Amin Birouk.
L'Ahly d'Égypte a largement tenu son rang face aux néo-zélandais d'Auckland City. Une victoire nette et sans bavure des récents finalistes de la Champions League africaine sur le score de 3-0 est venue concrétiser la domination des coéquipiers de Chinaoui. Dans un grand stade de Tanger archi-plein, les joueurs de l'Ahly ont attaqué ce match barrage tambour battant. Face au bloc défensif renforcé d'Auckland City, les Égyptiens ont pu prendre leur mal en patience avant de trouver la faille sur une frappe de loin de Hussein Shahat à la 44e minute de jeu. Moins crispés après le passage au vestiaire, les poulains du Suisse se collèrent pousser davantage pour augmenter leur rente. Leurs efforts étaient concrétisés peu avant l'heure de jeu sur un face-à-face victorieux de l'avant-centre Mohamed Chérif. Enfin, le Sud-Africain Percy Tau triplait la mise à quelques minutes du terme après une action collective de tout premier niveau. Elle y retrouve en quart de finale à Tanger samedi prochain les Américains de Seattle Sounders, une formation qui devra se méfier du métier des joueurs égyptiens. Une formation de l'Ahly qui entend aller le plus loin possible dans la compétition en respectant largement le fameux dicton « l'appétit vient en mangeant ». Depuis Casablanca au Maroc, Amin Birouk pour la VOA Afrique.
Raphaël Varane prend sa retraite internationale.
Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. C'est ce qu'a écrit sur Instagram l'actuel joueur de Manchester United à 29 ans. L'ancien joueur du Real Madrid arrête son compteur à 93 sélections, 10 ans après ses débuts sous la tunique tricolore en mars 2013. Dans son texte, Raphaël Varane revient sur sa fierté d'avoir remporté la Coupe du Monde il y a plus de 4 ans en Russie. Après la finale du Mondial 2022, perdue contre l'Argentine le 18 décembre, Varane n'avait donné aucune indication sur son avenir en équipe de France. Les Bleus perdent ainsi un troisième pilier de leur vestiaire après le départ du capitaine Hugo Lloris et de sa doublure dans la cage Steve Mandanda.
Ici aux États-Unis en NBA, les Celtics concassent les Nets.
Patron de la conférence Est, Boston a corrigé Brooklyn 139 à 96. À Philadelphie, les Sixers ont pris leur revanche sur Orlando 105 à 94. À l'Ouest, Damien Lillard s'est distingué avec 42 points lors de la victoire de Portland à Memphis 122-112. Sacramento a infligé une sixième défaite d'affilée 119-109 à San Antonio. Minnesota a pour sa part réussi un joli comeback à domicile face aux Warriors pour s'imposer après prolongation 119 114 à Phoenix. Les Suns ont éplié les Hawks d'Atlanta 132-100.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Le pape François, en visite en République démocratique du Congo, a reçu hier une délégation des victimes d'atrocités dans l'est du pays, atrocités qu'il a dénoncées avec véhémence lors de sa première messe. Le souverain pontife a aussi appelé au pardon, à la paix et à la réconciliation. Edith Sango a joint à Kinshasa l'abbé Jean-Bosco Bahala du diocèse de Bukavu dans le sud Kivu.
Le problème justement de l'Est du pays, c'est l'impunité dans laquelle on a laissé tous ceux qui ont commis des massacres, tous ceux qui ont commandité la violence dans ce coin du pays. Tant qu'on n'aura pas fait activer des mécanismes de justice transitionnelle, des mécanismes de réconciliation, mais aussi des mécanismes de justice internationale pour punir les auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis, il n'y a pas de possibilité que les peuples oublient, parce que les gens ne peuvent pas oublier tout ce qui s'est passé. Puisque ça se répète, on voit que les mêmes personnes...
Est-ce que c'est ce que le pape a demandé dans son message?
Exactement. Dans son message, il a parlé de justice. Il a dit que la justice était très importante. Il a dit également que l'on ne peut pas vivre sans justice. Et la justice accompagne justement le pardon. C'est cela le vrai message que nous avons retenu. Nous avons retenu que le pape voudrait que le cœur soit reposé pour qu'on ne s'enferme pas dans le mal, qu'on ne s'enferme pas dans la rancœur. Mais aussi, il faut que l'État, que le monde entier, c'est là l'intérêt. Qu'il a fait d'ailleurs. Il a dit laisser l'Afrique vivre, laisser le Congo vivre. On ne peut pas considérer le Congo comme simplement une terre à exploiter et comme une mine à exploiter. Il a parlé du Congo comme d'un diamant précieux sur lequel il ne faut pas que vienne la corrosion justement de la haine, de la violence et que ce soit un diamant qui puisse briller pour tout le monde. Et c'est cela que nous attendons.
Vous êtes de l'Est, le pape devait recevoir une délégation des gens qui sont venus de l'Est. Quel est le message que la délégation lui a apporté?
La soif de paix. Toutes les populations qui ont vécu les massacres, les violences et qui les vivent encore aujourd'hui, qui sont jetées sur les rues, voudraient voir revenir la paix pour qu'ils vivent normalement. Et ils attendent justement que la voix du pape qui porte puisse être celle qui éveille le monde entier à la réalité de la souffrance des peuples qui sont à l'est du Congo et qui souffrent depuis 25 ans, 30 ans sans le mériter parce que ce sont des peuples pacifiques et qui aimeraient vivre dans la paix.
Vous qui êtes de l'Est, est-ce que vous pensez que les populations sur place vont entendre et appliquer ce que le pape a demandé? Et il n'y a pas que dans l'Est, il y a aussi dans l'Ouest où parfois la cohabitation est difficile.
Mais oui, écoutez, nos peuples ne sont pas des peuples qui cultivent la haine ou la violence de façon permanente, non. Aujourd'hui, les peuples congolais, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, veulent vivre dans la paix et veulent jouir des richesses dont le Seigneur a doté notre pays dans la paix. Mais comme vous le savez, effectivement, il y a un travail de réconciliation qu'il faut faire. Il y a un travail, justement, de mise en route de cette volonté du vivre ensemble par le gouvernement qui doit, justement, créer les conditions du vivre ensemble par le rétablissement de l'autorité de l'État et aussi par cette volonté de la communauté internationale de laisser vivre nos peuples.
C'était l'abbé Jean-Bosco Bahala, prêtre du diocèse de Bukavu. Le pape François est attendu demain vendredi au Soudan du Sud. C'est sa première visite dans le pays le plus jeune du monde, plongé dans une longue fratricide de guerre civile. Un reportage de Sheila Pony depuis Juba, le récit avec Nani Talani.
La chorale de l'église catholique de Djouba répète une chanson écrite pour accueillir le pape François au Soudan du Sud. Les rues de la capitale ont été remises à neuf, les bâtiments repeints pour accueillir le pape âgé de 86 ans. Paul Angé est du bureau du président sud-soudanais.
Près de 90% du travail est fini.
60% des 11 millions d'habitants de ce pays sont chrétiens, la plupart catholiques. Le père Samuel Abbé dirige l'équipe qui prépare la visite papale.
Nous aimerions voir que la visite du Saint-Père nous apporte plus de bénédictions afin que le peuple du Soudan du Sud puisse coexister dans la paix et vivre ensemble comme des frères et sœurs.
Le pape doit tenir une messe en plein air au mausolée pour le docteur John Garang, père de l'indépendance du Soudan en 2011. Il va rencontrer également quelques-uns des 2 millions de personnes déplacées qui ont fui les violences dans le pays. Le pape est accompagné par le chef de l'église anglicane et celui de l'église d'Écosse dans ce que le Saint-Siège appelle un pèlerinage de paix non confessionnel. L'archevêque Justin Badi Arama est à la tête de l'église anglicane au Soudan du Sud.
Their presence in Juba, the capital city of South Sudan,
leur présence à Djouba est peut-être une façon pour Dieu de nous rendre visite, pour inverser et minimiser tous nos défis et permettre à nos dirigeants d'avoir cet esprit de confiance plus fort les uns pour les autres, cet esprit du sacrifice de soi, pour mettre en œuvre ce qui reste de l'accord de paix qui n'est pas encore mis en œuvre.
L'accord de paix, signé le 12 septembre 2018, n'a pas mis fin à la crise. Le pape François va venir de la République démocratique du Congo, qui, selon le Vatican, compte la plus grande population de catholiques en Afrique. Emmanuel Adil Anthony est le gouverneur de l'État de l'Équateur, qui englobe Djouba dans le centre du Soudan du Sud.
Nous avons informé notre peuple d'être prêt à recevoir le pape dès l'aéroport à l'arrivée du pape au moment de la République démocratique du Congo. Le président de la République a annoncé que 2023, l'année de la visite du pape, doit être une année de paix et de réconciliation.
Les deux frères ennemis, le président Salva Kiir ainsi que le leader rebelle et ancien vice-président Riek Machar, ont déjà été reçus en 2019 par le pape François. Leur rivalité a déclenché depuis 2013 une guerre civile sans fin qui a fait plus de 400 000 morts.
Au Togo, le projet Ghetto fait son chemin à Lomé. Il s'agit d'un programme pour aider les jeunes qui ont traversé des épreuves difficiles, comme la consommation de drogue, à sortir du ghetto de la marginalité. Le reportage de notre correspondante à Lomé, Amen Assignon.
Dans ce repère de toxicomanes situé au quartier Baie à Pédomé, à Lomé, Julien et quelques-uns de ses amis font la ronde pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue. Julien est aussi l'un des résidents de cet endroit peu recommandable, communément appelé ghetto, et dans lequel il vit depuis un an et demi. Il fait partie de ces jeunes sans repère, en proie aux stupéfiants.
Moi particulièrement, j'avais pas de support. Je suis pas dû tomber du ciel, mais quand même, j'avais pas de support. Et en plus, les mauvaises compagnies ont fait que je suis rentré à ghetto et je fume.
Il y a quelques mois, Julien a fait le choix de reprendre sa vie en main. Il s'est inscrit à un programme d'appui à la réinsertion des jeunes issus des ghettos. Dans ce centre de formation, Julien et d'autres bénéficiaires sont formés en artisanat pour leur réinsertion professionnelle. Jamessi Kofi Aménion est l'un des formateurs.
Donc, on les apprend l'artisanat, donc particulièrement le macramé et le tissage des lits picots, les sacs en nylon, tout ce qu'on peut tisser avec la main, avec les fils, les nylons, donc c'est ce que nous les apprenons. Nous leur faisons une formation psychopédagogique parce que ce sont des gens que psychologiquement on doit travailler avec eux.
En 6 mois, le programme a accompagné une vingtaine de jeunes. Le travail a consisté à les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et à leur apporter un soutien socio-sanitaire, psychologique, pour leur prise en charge et leur réinsertion intégrale dans la société. Un pari réussi selon les initiateurs du projet. Écoutons le maire de la commune Golf 1, Kwami Gomado.
Ça fait pratiquement 6 mois qu'on a commencé. Les résultats sont concluants puisqu'il y a les vingtaines de personnes qu'on a mobilisées. Ils sont toujours là pour suivre la formation et même sont déjà prêts pour qu'on puisse leur donner les moyens pour s'installer.
Ce programme est destiné à créer un impact significatif dans la vie de ces jeunes issus des ghettos et leur montrer que des solutions existent pour les aider à arrêter la consommation de la drogue et sortir de la précarité. Pour Julien, ce programme a été salvateur.
Oui, le méfait de la drogue, c'est nuisible, ça nous tue, petit feu. C'est pas bon. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. Premièrement, connaissance. Deuxièmement, ça m'a beaucoup changé mentalement. Ça fait que bon, j'ai quelque chose en main. Et si je n'ai pas de la thune, je peux aller faire mon travail pour gagner de la thune. Ça m'a beaucoup plu.
Lomé, la capitale, compte plus d'une cinquantaine de ghettos. C'est dire à quel point le sujet interpelle. Ce projet n'est qu'à sa phase pilote, mais les résultats déjà obtenus constituent un modèle qui peut être répliqué dans d'autres communes du pays pour lutter contre l'insécurité. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Cette semaine au Sénégal, les acteurs culturels, notamment ceux du mouvement hip-hop, se sont levés comme un seul homme pour demander la libération du rappeur Nid Dof, proche de l'opposant Ousmane Sonko. Il est en prison pour diffusion de fausses nouvelles, outrage aux magistrats et menace de mort sur les autorités judiciaires. Une situation qui relance le débat sur la présence des artistes dans l'espace politique. De notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
L'engagement des acteurs culturels ne date pas d'aujourd'hui. Du temps du président Abdou Diouf déjà, des voix jaillissaient du monde de la culture pour réclamer des droits civiques et politiques. Un engagement qui s'intensifie. Pour DJ Baron, il n'y a rien de plus normal que cela.
Les acteurs culturels ont toujours été engagés pour aux événements qui se passent dans le pays. Parce qu'eux, ils se sont déjà engagés, c'est-à-dire être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, c'est-à-dire représenter la population, la basse classe, qui sont là, représenter ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir un micro tendu envers eux. Ils ont toujours été là pour la population.
Un engagement légitime qui doit aussi être permanent, d'après Alexis. Pour cet agent commercial, les acteurs culturels doivent s'investir pour le bien-être des populations.
En tant qu'acteurs culturels, en fait, ils sont aptes à aller voir nos guides pour pouvoir exposer le problème. En tant que tel, bah, moi je trouve que c'est normal. Ça va les valoriser, en fait, parce qu'un acteur culturel, tu dois aussi te soucier de ton pays. C'est pas quand il y a la fête, tu pars, tu encaisses l'argent, tu fais des concerts, mais à un moment donné aussi, tu dois savoir que tu es un citoyen sénégalais et tu es un porteur de voix et tu dois aussi te battre pour la société.
Moussa Sané n'est pas du même avis. Pour cet étudiant, l'implication des acteurs culturels peut avoir un impact négatif sur leur carrière.
Ils ont aussi des carrières à gérer. Il peut y avoir des conséquences parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où certains ont l'habitude de se mettre en colère sur une personne si toutefois il dit quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Alors si jamais un acteur culturel s'engage dans l'arène politique et toutefois il dit quelque chose qui n'arrange pas ce qu'il écoute le plus souvent, donc ça pourrait voilà, mettre en péril entre guillemets sa carrière.
Des répercussions négatives comme c'est le cas actuellement pour le rappeur Nid Dof, même si certains comme DJ Baron pensent que ce dernier a un peu exagéré lors du direct sur les réseaux sociaux qui lui a valu son incarcération.
Nid Dof doit admettre qu'il a fait des erreurs. Je ne vais pas dire qu'il a fait une erreur ou quelque chose comme ça, mais il a fait des erreurs. C'est-à-dire, être déjà engagé, c'est le respect. Il est modèle, parce que beaucoup de jeunes le suivent à travers ce qu'il fait. C'est la musique et tout. C'est un exemple. Il a fait une bourde et il doit l'admettre.
Que ce soit pour élire, détrôner, réclamer ou magnifier, les acteurs culturels sénégalais sont souvent au devant de la scène et s'engagent de plus en plus auprès d'hommes politiques. Même si les fortunes sont diverses selon qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, les Sénégalais estiment que l'engagement doit se faire au bénéfice de la société et pour le bien des populations. C'est Dina Bagay pour VOA Afrique, Dakar.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la visite du pape en RDC et au Soudan du Sud. Le souverain pontife se rend dans deux pays dont plus de la moitié de la population est d'obédience catholique, dans un continent que beaucoup considèrent comme l'avenir du christianisme. Durant sa visite, il sera beaucoup question d'appel à la paix, car les deux pays sont minés par des conflits armés qui ont poussé des millions de personnes à quitter leur domicile et à vivre dans la précarité et l'insécurité. Pourquoi la visite du pape est importante? Quel rôle pour l'Église dans la recherche de la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro. À la mise en onde de Georges Léonard Sagno, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.